Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes spécialiste des États-Unis et aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler de la visite surprise du président américain Joe Biden à Kiev en Ukraine. Alors, première question, outre le côté symbolique de cette visite à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, que représente la première venue finalement du président américain à Kiev ?
Elle représente en premier lieu la détermination des États-Unis à résister à Vladimir Poutine. C'est une obsession pour Joe Biden de lutter contre les autocraties pour défendre la démocratie. On est dans l'esprit de liberté qui sous-tend la Constitution américaine et les valeurs cardinales américaines. Joe Biden s'était donné pour but de les défendre dans le monde et de rétablir l'équilibre, encore une fois, entre autocratie et démocratie. Eh bien, il le démontre sur le terrain depuis qu'il est président. Et c'est vrai que ce geste fort du déplacement du président des États-Unis à Kiev est un sacré message envoyé non seulement à Vladimir Poutine, mais également à d'autres autocraties. On pense bien sûr à la Chine au passage.
Alors justement, en parlant de messages envoyés notamment à la Russie et au chef du Kremlin, Vladimir Poutine, comment le Kremlin reçoit un tel message ?
Alors, j'ai pas encore vu de réaction particulière du Kremlin, si ce n'est que ça avait été effectivement répertorié dans les médias américains, mais plus comme une brève ou comme une annonce factuelle de cette visite. Ce sera forcément quelque chose de très compliqué à aborder pour Vladimir Poutine, puisque demain, il devait faire son grand discours, on va dire l'équivalent du discours de l'Union que fait le président américain chaque année. Et dans cette annonce, on s'attend demain à ce qu'il y ait une nouvelle mobilisation, une nouvelle annonce d'envoi d'hommes supplémentaires, on parle même de 300 000 sur le front ukrainien. Alors Joe Biden lui a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds, voire beaucoup, en se présentant à peine à quelques kilomètres de Moscou.
Alors, Joe Biden, à Kiev, il a rencontré son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et dans la foulée, il a annoncé de nouvelles aides américaines à l'Ukraine, notamment la livraison de munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Tout ça représente un montant plus ou moins de 500 millions de dollars. D'un autre côté, on sait que Volodymyr Zelensky a récemment demandé davantage d'aides militaires, dont des avions de combat F-16. C'est une demande que Washington et d'autres pays occidentaux ont rejeté. Pensez-vous qu'à l'issue de cette visite, les États-Unis pourraient finalement fournir des F-16 à l'Ukraine ?
Écoutez, c'est la rumeur qui monte très très fort. Pour l'instant, je n'en vois pas les signes. Ce que je vois, c'est qu'on est quand même monté un cran au-dessus avec des munitions d'artillerie à longue distance, puisqu'on parle désormais de la possibilité de tirer à 400 km. C'est vrai que la montée est progressive, exactement comme Joe Biden l'avait annoncé dès l'envahissement de l'Ukraine par la Russie il y a un an. Donc on est dans son calendrier. On y viendra certainement à ces avions, mais pas trop vite et pas trop tôt, parce que d'abord, il faut former les pilotes aux avions et aux machines américaines. Et puis, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans la co-belligérance et donc faire accepter par la Russie aussi que cette montée soit de plus en plus forte. Imaginez si les livraisons d'aujourd'hui avaient été faites il y a un an, la Russie aurait considéré qu'elle était agression en retour et on aurait pu avoir un conflit mondial. Or, c'est ce que Joe Biden veut à tout prix éviter.
Donc c'est ce risque, cette crainte finalement de devenir co-belligérant qui fait que cette question finalement des avions de combat F-16 semble poser problème, non seulement du côté des États-Unis, mais je fais notamment référence à l'Allemagne qui a également rejeté cette demande de l'Ukraine.
Absolument, parce que encore une fois, on ne sait pas comment la Russie peut recevoir le fait de voir des engins de plus en plus perfectionnés et puis qui servent à attaquer, non pas simplement à défendre. Pour l'instant, ce qui a été expliqué, c'est que les armes servaient à défendre, même si on peut tout redacter que toutes les armes servent aussi à attaquer. Mais en tout cas, la limitation dans la portée et l'idée qu'elles ne servent pas pour aller attaquer le territoire russe, c'est ça qui prédomine dans la décision des alliés autour de l'Ukraine. Et pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on est resté dans les limites du territoire ukrainien, même si, bien sûr, on est tous concernés par cette guerre.
Alors, le président américain a également annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie pour cette semaine. Avec toutes les sanctions, tous ces paquets de sanctions déjà donnés à la Russie, quel type de sanctions peut-on imaginer qu'il s'agira cette fois?
Alors, on le sait à peu près, hein, parce que là aussi, ça se murmure depuis très longtemps dans le cénacle autour du Pentagone. Ce seront des sanctions qui vont toucher les entreprises qui aident à l'effort de guerre russe. Donc, pas simplement les entreprises qui fabriquent de l'armement, mais celles qui peuvent fabriquer des pièces détachées ou de la maintenance. Toutes celles-là vont être touchées directement et il s'agit encore une fois d'étrangler l'économie russe de plus en plus. Sans toutefois essayer de toucher la population, même si c'est œuvre impossible, bien évidemment, dès qu'on parle de sanctions. Mais l'étranglement se fait là aussi progressivement depuis un an. Et Joe Biden reste là aussi fidèle à sa méthode.
Alors, on s'éloigne un tout petit peu finalement des États-Unis. Il y a quand même une petite question qui me taraude en ce qui me concerne, et j'imagine que cette question taraude beaucoup de monde depuis presque un an de guerre en Ukraine avec toutes les sanctions déjà imposées à la Russie. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la Russie n'en a que faire de ces sanctions?
Mais c'est l'impression que les Russes aimeraient donner. En tout cas, Poutine, dans sa propagande, explique que ça ne change rien, qu'il est très riche, qu'il vend le pétrole beaucoup plus qu'avant. En réalité, les sanctions, c'est un effet à long terme, puisque dans un premier temps, ben, il y a les restrictions, la perte de stock et tout ça. Bon, c'est pas non plus très très grave dans une société, mais au bout d'un moment, il y a pénurie. Et là, on rentre dans autre chose, pénurie de matières de première nécessité, pénurie de matières ou de ressources qui permettent de faire fonctionner l'industrie russe. On va arriver et forcément, on n'en est qu'à 12 mois, si je peux le dire ainsi, mais forcément, ça va finir par payer, par se voir et par faire très très mal à la Russie, qui a un PIB qui est déjà en train de dégringoler, et ça pourrait s'accélérer très rapidement dans les mois qui viennent.
Une dernière question, Jean-Éric Brana. Vous parliez en début d'entretien de Joe Biden déterminé à s'imposer face aux autocrates, hein, Vladimir Poutine, mais également une autre autocratie qui est la Chine. Alors là, on apprend que selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, eh bien, la livraison d'armes à Moscou par Pékin serait une ligne rouge pour l'Union européenne. Mais on imagine, on n'y est pas encore, que si la Chine commence à livrer des armes à Pékin, on imagine que les relations États-Unis-Chine risqueraient de mener là aussi à une sorte de guerre finalement.
On a raison de l'imaginer puisque Anthony Blinken a soulevé ce problème ce week-end en rencontrant son homologue chinois. D'ailleurs, il lui a dit pour les Américains, c'est pas possible, ça ne serait pas accepté. Là aussi, les Chinois vont se retrouver dans la même situation que les Américains vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine. C'est la fameuse co-belligérance. Et en faisant une aide militaire directement à la Russie, ils se rangeraient du côté de la Russie. Et donc, effectivement, la tension deviendrait extrêmement forte avec les États-Unis. Alors, on explique que peut-être ces armes vont passer par la Corée du Nord. Peut-être que c'est déjà fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez trouble actuellement. Mais les Chinois qui veulent quand même garder leur marché et de bonnes relations avec le reste du monde pourraient peut-être réfléchir à deux fois avant d'aider la Russie, puisqu'après tout, même s'il y a une proximité idéologique forte, sur le plan purement commercial, la Russie ne représente pas grand-chose pour les Chinois. Et il leur faut faire face, eux, également à une crise économique importante actuellement, plus d'autres problèmes internes, notamment au niveau de leur retraite et sur le plan social, peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'au bout et ne persisteront pas dans cette idée d'aider militairement la Russie.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup pour vos éclairages. À très bientôt.
À très bientôt. Je vous remercie.